C'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Evelyne Fontane, à chaque dimanche, midi, 13h, sur RCFM.
Et quel plaisir de mettre les sciences à l'honneur et de vous retrouver chaque dimanche sur RCFM avec aujourd'hui à la réalisation Joël Fondacci et bien sûr à mes côtés le directeur du Parc Galet à Fabrice Fenouillère.
Bonjour.
Bonjour Fabrice. Fabrice qui nous invite aujourd'hui à nous intéresser à l'un des noms les plus connus de l'histoire des sciences, présenté souvent comme le Newton de la biologie, figure majeure de la théorie de l'évolution naturelle et dont l'œuvre et la pensée restent aujourd'hui encore sous les feux de l'actualité. Rencontre aujourd'hui avec le grand Charles Darwin.
Et oui, c'est vrai qu'Evelyne, on va dans cette émission à la fois découvrir qui était ce fameux Charles Darwin et comprendre sur la base de ses travaux ce qui conduit une espèce végétale ou animale à apparaître, à évoluer, à perdurer ou à disparaître.
Et alors dites-moi, qui est notre expert aujourd'hui ? J'ai entendu parler de Romain Nattier.
Et c'est une chance que nous l'ayons avec nous, effectivement, Romain Nattier, maître de conférences et enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, spécialiste notamment de la classification du vivant. Et puis en seconde partie d'émission, nous ramènerons nos mallettes scientifique en Corse, en recevant Cécile Breton, fondatrice de la revue Espèces, un trimestriel de vulgarisation dédié aux sciences naturelles, né en Corse, diffusé dans toute la France et absolument captivant à chaque numéro.
Ça me fait penser, tiens, que dans sa revue, on aurait pu parler d'une espèce de lézard. Vous avez compris de quoi je parle, c'était de l'énigme de la semaine dernière. Hein.
Et oui, c'est vrai que la semaine dernière, on était dans un monde très ancien, du paléozoïque, et puis sur cette énigme de fin d'émission, je vous demandais de trouver une espèce de lézard qui répondait à cette définition. Je pourrais aussi être un aromatique monumental. Ça a bouillonné chez vous
pas
ou pas?
Pas du tout.
Vous n'avez même pas essayé, je suis sûr. Vous avez abandonné avant de commencer, avez bien fait. En fait, la bonne réponse nous a été donnée par Marie de Bigouglia, qui a reconnu derrière cette énigmatique formule le lézard basilic. Basilic comme l'aromatique,
ah oui.
Basilic comme le monument, une basilique. Et c'est vrai que c'est une véritable star, en fait, sur les documentaires animaliers. Une sorte de lézard qui court sur l'eau avec les deux pattes en avant. On appelle aussi le lézard Jésus-Christ.
Non, normalement, tout le monde. C'est excellent.
Oui, c'est vrai. Normalement, c'est quelque chose qu'on repère comme ça, mais le nom de basilique, on ne l'avait pas forcément. Bien, Marie repartira en tout cas avec notre livre des plantes et des hommes qui viendra poser son feuillage sur sa table de chevet très prochainement.
Bravo, Marie. Charles Darwin, scientifique célèbre qui a contribué à changer notre vision du monde avec sa théorie sur l'évolution des espèces où il démontre que l'homme n'est plus au centre et encore moins au sommet du vivant. Il en reste pour autant un personnage méconnu. Eh bien, nous en saurons un peu plus sur ce grand nom des sciences grâce à notre expert Romain Nattier, docteur en sciences au Muséum de Paris, où nous allons le retrouver d'ailleurs en direct.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonjour Romain Nattier.
Bonjour.
Bonjour Romain.
Ravi en tout cas de vous accueillir. Et puis c'est vrai ce qu'on se disait, Darwin, un nom célèbre, et pourtant finalement on ne sait pas grand-chose sur sa vie.
On ne sait pas grand-chose, mais pourtant effectivement on en connaît tous de manière peut-être inconsciemment beaucoup. On a tous entendu parler de la théorie de l'évolution, de son fameux voyage au bord du Beagle, et pourtant c'est vrai qu'il a encore besoin de nos jours d'expliquer sa théorie, surtout pour la rendre davantage visible au grand public.
Et la chance qu'on a, c'est de vous avoir sous la main hein, pour profiter là des quelques minutes avec vous et nous expliquer tout ça. Pour les auditeurs là qui nous écouteraient et remettre un tout petit peu les choses dans leur contexte, Romain, on peut citer les grandes lignes de la vie de Charles Darwin, né en Angleterre, milieu social plutôt aisé. À 22 ans, il s'embarque sur un bateau.
Oui, alors tout à fait. Donc Charles Darwin naît en 1809 dans une toute petite ville de l'ouest de l'Angleterre. C'est le cinquième enfant de sa famille. Son père était médecin et son grand-père était naturaliste, et le fameux Erasmus Darwin. Il a commencé des études pour suivre la même carrière de son père, médecine, mais bon, ça l'a pas beaucoup passionné. Ensuite, il a fait des études de théologie et il a profité, il a saisi l'opportunité d'un voyage naturaliste à bord du fameux Beagle, à peu près une vingtaine d'années.
Il disait d'ailleurs « L'école, comme moyen d'éducation, fut pour moi un simple zéro ». C'est dire à quel point ça lui a laissé peu de traces, l'école, pour lui. Finalement,
oui, alors, bon, l'émission s'adresse aussi aux enfants. Hein. C'est facile de dire ça quand on a fait une brillante carrière scientifique comme lui. Mais on peut dire que c'est l'école qui lui a apporté quand même beaucoup, les bases fondamentales. Quand même.
Bien évidemment. Il a failli être prêtre. Je crois que son père voulait le destiner à ce type de carrière.
Oui, alors en fait, son père était plutôt, l'a poussé plutôt aux études de médecine, parce qu'il l'a absolument pas passionné. Et bon, bah, par défaut, il s'est dit, bon, autant que mon fils soit prêtre. Il a suivi des études de théologie qu'il a réussi, bien sûr, mais dès qu'il a pu s'échapper de cette condition un peu, à bord de ce voyage naturaliste, il en a profité pour partir plusieurs années loin de sa famille et loin de cette Angleterre victorienne. Un petit peu fermé, on va dire.
Ouais, puis il est parti pendant 5 ans, quasiment un tour du monde, effectivement, en tant que naturaliste. Il a découvert des choses formidables, on y reviendra.
Oui, non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas parti en tant que naturaliste.
Et oui.
Et voilà, effectivement, il est parti en tant que pour une autre fonction, mais comme il était passionné de science et du naturalisme, il a profité de ses 5 ans pour accumuler beaucoup, pour collecter de nombreuses données.
Et ça, c'est vraiment plus intéressant parce qu'il a changé de rôle en route, effectivement.
Mais petit, déjà, je crois qu'il aimait collectionner. Il ramassait des œufs, il ramassait des tas de choses autour de lui, alors que personne chez lui n'avait cette passion. Il dit que c'était inné chez lui, cette envie de...
Alors justement, c'était inné et on se rend bien compte aussi que, surtout s'il y a des parents et des enfants qui nous écoutent, que c'est un peu le lot de tous les enfants. Dès qu'on est enfant, on a cette petite soif de découverte, on aime bien aller dans la nature, ramasser des œufs, ramasser des insectes, les amener à la maison, ce qui ne plaît pas toujours aux parents. Mais justement, donc c'est quelque chose de naturel, d'inné, on va dire, et bah, lui qui l'a perduré un peu toute sa vie.
Et puis vous êtes pas très loin de tout ça, parce que vous collectez aussi beaucoup de choses, notamment les coccinelles. Hein, vous êtes un grand spécialiste.
Voilà, tout à fait.
De ces bestioles.
Je retrouve mon âme d'enfant.
Cambridge, il paraît même qu'il payait un jardinier pour aller lui ramasser des mousses au pied des arbres. Je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote qu'il raconte dans ses mémoires pour élargir sa collection d'insectes.
Sa collection naturaliste en l'occurrence. Et effectivement, il a petit à petit accumulé de grandes données autour de chez lui. Et donc après, lors de son voyage au Beagle, il en a profité pour découvrir les richesses naturalistes du monde.
Alors, on est à bord du bateau. On a ce personnage bien né qui fait pendant 5 ans ce tour du monde, qui se trouve très à l'aise dans la profession ou en tout cas dans la spécialité naturaliste. Ensuite, on va passer les années, on va pas forcément travailler sur sa biographie, mais peut-être encore une fois pour resituer bien le sujet de l'émission, on va avoir une grande découverte scientifique de Darwin qui va totalement révolutionner la vision du vivant. On pourrait déjà y aller, hein, on est sur la publication d'un livre autour de la théorie de l'évolution, l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle en 1859. C'est ça qui va tout changer.
Ça va tout changer parce que sa théorie explique que toutes les espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes aussi, on peut également inclure des espèces mortes qu'on connaît sous la forme de fossiles, sont apparentées et c'est d'ailleurs qu'elles sont toutes issues d'un même ancêtre commun plus ou moins lointain. Et il ajoute ce mécanisme, fameux mécanisme, qui s'appelle de descendance avec modification et la sélection naturelle. Et donc, à partir de ce moment-là, ça enclenche toute une série de réactions dans l'Angleterre, bien sûr, des débats plus ou moins vifs. Et ensuite, la théorie continue d'évoluer, justement.
Mais avant lui, il y avait déjà des personnes donc, qui parlaient d'évolution. Tout le monde n'était pas simplement dans une pensée où on disait que le divin avait tout créé.
Bien sûr. Alors, c'est ce qu'on appelle les théories pré-darwiniennes, mais qui sont quand même des théories évolutionnistes. Alors, on appelle plutôt ça des théories, on appelle ça plus le transformisme. D'ailleurs, Erasmus Darwin, le grand-père de Darwin, dans un de ses ouvrages, Zoonomia, expliquait que les espèces pouvaient se transformer au cours du temps. Donc, c'était quelque chose qui était déjà en vogue, notamment en France, avec Lamarck, donc qui est très, très connu, que le fait que les espèces peuvent se transformer au cours du temps. Mais Darwin a surtout apporté les mécanismes, a mieux expliqué les mécanismes qui permettent d'expliquer cette évolution des organismes au cours du temps et aussi a popularisé la théorie de l'évolution à l'époque.
Romain Nattier, pour que nos auditeurs comprennent bien, prenons par exemple les girafes et donnez-nous la vision des deux, par exemple de Lamarck et de Darwin ensuite pour expliquer justement ce coup très long. Comment chacun voyait les choses ?
Justement, c'est le fameux exemple des girafes de Lamarck. Alors, selon la Lamarck, les espèces acquièrent de nouveaux organes, ou les modifient, ou bien les perdent, pour s'adapter à leur milieu de vie et les transmettre à leur descendance. C'est ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Alors, par exemple, à cause d'un changement dans leur milieu de vie, les feuilles sont devenues un peu plus hautes dans les arbres. Du coup, les girafes, selon Lamarck, bien sûr, étirent leur cou pour les atteindre et étirent également leurs pattes durant leur vie. Ensuite, les girafes donc ont des coups plus longs et des pas plus longs. Ils transmettent ce caractère donc qui est acquis au cours de leur vie à leurs descendants. Et avec le temps, petit à petit, l'espèce s'adapte à ce milieu de vie en devenant de plus en plus allongée. Ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Le problème, c'est que ça ne reflète pas vraiment ce qui se passe dans la nature, notamment ce qu'on appelle les variations. C'est-à-dire que nous sommes tous différents, nous possédons tous des petites variations. Mais selon Lamarck, les variations sont juste des aberrations par rapport à une image parfaite. Alors, selon Darwin, à cause d'un changement du milieu de vie, les feuilles sont devenues plus hautes dans les arbres. Donc, même postulat de départ que Lamarck. Sauf que ce ne sont pas les girafes qui s'étirent progressivement. Il n'y a pas de volonté, entre guillemets, des girafes pour essayer d'approcher les feuilles les plus hautes. Il se fait que par hasard, il y a des girafes plus petites, d'autres qui sont plus grandes. Donc ça, dans la vie de tous les jours, on remarque tous, rien que si on se regarde entre nous, il y a des
petits, des plus grands,
d'autres plus grands. Il se trouve que les girafes qui, par hasard, donc il y a l'importance du hasard dans l'évolution, sont plus grandes, elles peuvent attraper les feuilles. Celles qui sont plus petites ne peuvent pas. Du coup, celles qui sont plus petites, malheureusement, meurent. Celles qui sont plus grandes arrivent à manger les feuilles et donc transmettent ce caractère qui est apparu par hasard à leur descendance, et donc à leur descendance de girafes qui naissent déjà un peu plus grandes que les autres, etc. etc.
Il y a quelque chose de très intéressant, le mot, vous l'avez plusieurs fois appuyé dans ce commentaire, c'est le mot hasard. C'est vrai qu'on n'a pas toujours en tête que dans l'évolution du vivant, ce hasard est bien présent. On se dit toujours que les choses sont faites pour quelque chose, en vue de quelque chose. Est-ce que vous pouvez, alors peut-être nous donner d'autres exemples, ou nous réexpliquer un petit peu l'importance de ce hasard dans l'évolution ?
Alors justement, le hasard est effectivement à une place centrale dans l'évolution, et c'est entre autres à partir de Darwin que la notion de hasard au cœur même de la transformation des espèces a été apportée et popularisée. Mais il se trouve que effectivement, c'est pas très rassurant dans la vie de tous les jours. On aime bien que tout soit cadré, on aime bien que on n'aime pas laisser la place de hasard dans nos vies. Alors pensez qu'en plus le hasard a une importance dans l'évolution et donc dans la diversité du monde, c'est quelque chose d'incroyable et qui fait un peu peur, quoi. Alors que justement, le fait qu'il y ait des variations qui apparaissent dans tous les organismes autour de nous, et donc aussi que le fait qu'on soit tous différents, c'est important. Donc ça aussi, il y a une notion très importante derrière cela, un peu plus philosophique que bien sûr. Et donc voilà, c'est une notion très très importante. Alors, là, effectivement, j'ai pris l'exemple des girafes, qui est l'exemple le plus connu, mais on peut aussi prendre n'importe quel exemple, l'évolution du blé par l'homme, ce qu'on appelle la sélection artificielle. Il se trouve que par hasard, il y avait des formes de blé qui avaient des épis un peu plus gros. L'homme a pris ces épis de blé, les a fait se reproduire. Ensuite, à la génération suivante, par hasard aussi, il y avait des épis qui étaient un peu plus gros. L'homme les a pris, etc., etc. Et au cours du temps, on arrive actuellement à des blés qui sont complètement différents de la forme de départ. C'est vraiment complètement même une autre espèce, qui ont des épis beaucoup plus gros, qui sont plus faciles à cultiver, etc. Donc le hasard a été aussi utilisé par l'homme, notamment en agriculture.
Romain Attier, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour C'est votre jour de science.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom!
freedom, freedom, freedom.
C'est votre jour de science, Fabrice Fenouillère, Evelyne Fontane, à chaque dimanche, midi, 13h, sur RCFM.
Si vous prenez notre émission en cours de route, notre expert Romain Nattier lève le voile sur Darwin et sur sa théorie de l'évolution des espèces il y a plus de 150 ans. Une théorie que l'on dit toujours actuelle. Alors on a eu l'exemple des girafes, on a eu l'exemple du blé. Ça devient concret, Fabrice, c'est vrai.
Et oui, c'est tellement complexe en fait, hein, cette théorie, ce thème-là. Et on a la chance d'avoir Romain Nattier qui nous le rend vraiment accessible. Alors on peut d'ailleurs être très précis, peut-être demander une définition de ce qu'est cette théorie de l'évolution. C'est quoi la théorie de l'évolution en fait, très simplement, Romain ?
Ce qu'on appelle théorie de l'évolution, c'est le fait que toutes les espèces sont apparentées, c'est-à-dire issues d'un même ancêtre commun,
d'accord,
et qu'elles évoluent au cours du temps, c'est-à-dire qu'elles se transforment au cours du temps sous l'influence de l'environnement par d'accord. quelque chose qu'on appelle la sélection naturelle.
Alors la sélection naturelle, justement, si on devait maintenant la définir, c'est un environnement qui offre une pression particulière qui fait que certains s'y adaptent, d'autres meurent, laissent la place, transfèrent leurs gènes à la descendance. La sélection naturelle, c'est quoi, au fond, vraiment ?
Justement, ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est l'ensemble des facteurs qui, donc, entre guillemets, sélectionnent justement les formes ou les organismes qui sont les plus aptes à survivre dans un instant donné et dans un environnement donné. C'est pas quelque chose de général, on va dire, sur toute la planète. Ça dépend fortement de l'environnement et ça permet, entre autres, d'expliquer l'adaptation des organismes à leur environnement.
Alors, on entend souvent parler des dinosaures. Hein. On a eu l'occasion, dans C'est votre jour de science, d'aborder ce thème avec des spécialistes. On a pu lire de ci, de là, que justement, très puissants et aussi puissants qu'ils étaient, ils n'étaient peut-être pas finalement si bien armés, puisqu'ils n'ont pas pu résister à un moment donné eh bien, à une extinction hein, quasiment de leur espèce, hormis les oiseaux, évidemment. Est-ce que, du coup, la notion de force, de puissance, est toujours importante, prédominante dans la sélection naturelle ?
J'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, absolument pas. Parce que justement, quand on parle de forme ou de puissance, ça dépend d'un environnement donné. On peut très bien dire, par exemple, que l'homme est fort et puissant. Là, je suis au muséum dans Paris, je maîtrise mon environnement. Mais je pense que si vous me lâchez en plein milieu d'une forêt tropicale, je serais même un peu moins puissant que toutes les espèces.
On est plusieurs.
Voilà. Donc, j'ai pris mon exemple. Hein,
mais il est valable pour
nous. Ça, c'est important. Ça dépend vraiment, véritablement, de l'environnement. Après, au sein d'un même environnement, effectivement, les individus au sein d'une espèce, généralement qui sont malades ou bien qui n'arrivent pas à supporter un changement de l'environnement, ces espèces-là disparaissent au cours du temps et sont remplacées par d'autres ou alors se transforment en d'autres espèces.
Et ces différences qui sont de l'ordre de l'espèce et non de la variété, c'est l'histoire des pinsons qui a mis un petit peu
la puce à l'oreille
de Darwin.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, lors de son voyage à bord du Beagle, il s'est arrêté dans de nombreuses îles, notamment aux fameuses îles Galapagos. Et au sein de ces îles Galapagos, il a remarqué, notamment au niveau des oiseaux, que certains pinsons avaient des becs différents et que ces becs étaient adaptés à un mode de régime alimentaire particulier. Certains avaient des gros becs qui leur permettaient de casser des grosses noix, d'autres des becs un peu plus fins qui leur permettaient de se nourrir d'insectes, notamment dans le bois. Et donc, il a observé des espèces complètement différentes avec une forme de bec vraiment très, très, très différente. Et donc, à partir de l'ensemble de ces observations, il a pu donc conceptualiser sa théorie de l'évolution.
Et est-ce qu'il a pu, lui, assister à une transformation animale ou végétale qui a pu prouver quasiment en direct sur sa durée d'étude ou sa durée de vie sa théorie qu'il a élaborée ? Ou est-ce que finalement tout ça est sur un temps bien trop long pour pouvoir le voir d'œil d'homme ?
Alors, on peut le voir sur un temps humain. Alors, par exemple, lors de la sélection, on va dire, artificielle des plantes, je vous ai pris l'exemple du blé tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'exemples, notamment, on s'est rendu compte dans certains cas, au niveau des champs, des insectes, qui pouvaient changer par rapport à l'influence de l'homme. Je pense, par exemple, à certains grillons du métro qui peuvent avoir des champs différents par rapport aux grillons naturels, on va dire. Donc ça, c'est à une échelle de temps humaine. Et beaucoup de biologistes travaillent sur des petites mouches qu'on appelle les drosophiles,
et
qui
oui.
ont des nombres de générations très importantes qui peuvent se reproduire de manière dans un temps assez court. Et donc là, à une échelle d'une vie, on peut observer au cours du temps, sous la pression de l'environnement, l'évolution de ces espèces quasiment en direct. Donc c'est quelque chose qui est fortement observable également.
Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu, je le dis aux auditeurs s'ils vont faire quelques recherches là-dessus, effectivement c'est le principe de la phalène du bouleau. Hein, c'est ce papillon nocturne qui vit du côté de l'Angleterre notamment, qui au départ était blanc, tacheté de noir et qui se confondait sur les troncs de bouleau. Et au 19e siècle, on a pu lire que lorsque les arbres étaient couverts de résidus de charbon, bien en direct, on a assisté là sur quelques générations de papillons, donc ça va très vite, à des papillons qui devenaient tout noirs, comme les troncs, eux, l'étaient devenus à cause de ce charbon, et qui ensuite, hors période industrielle, ont repris leurs taches blanches pour de nouveau, par mimétisme, se cacher sur le tronc. Donc on était vraiment en train d'assister à un changement carrément en direct et une évolution active qu'on pouvait observer. Est-ce que, cher Romain Nattier, vous pouvez nous dire si, parce qu'on a un petit peu été rapide sur sa carrière, si ses travaux à l'époque ont été bien accueillis par son entourage, les travaux de Darwin en son temps? On a vu quelques caricatures où on le voit voûté comme un singe notamment.
Oui, alors justement, ce qui se passe, c'est que lors de la publication de son ouvrage, pour être plus précis, lors de la première édition de son ouvrage, qu'il y a eu plusieurs éditions de son ouvrage, où à chaque fois, il rajoutait des pages pour répondre notamment à ses détracteurs et pour préciser sa pensée. Alors, ça a été très bien accueilli dans le sens où ça a eu un grand succès, avec d'une part, comme dans de nombreux cas, des personnes qui étaient pour sa théorie, qui l'ont très bien acceptée, voire qui l'ont même défendue, et d'autres, notamment des personnes très conservatrices, des scientifiques également, ou bien des théologiens qui sont opposés à sa vision qui, vous l'avez dit de manière très juste en début d'émission, qui remettait en cause la place de l'homme dans la nature. Et finalement, c'est ça qui a apporté le plus gros problème à Darwin et qui ensuite l'a poussé à écrire un second ouvrage qui s'intitule « De la filiation de l'homme ».
C'était un travail remarquable, 20 ans de maturation, un an d'écriture. Et quand le livre est sorti, je crois qu'il y a eu énormément de traductions aussi, même en japonais à l'époque. C'est quand même phénoménal.
Oui, alors c'est phénoménal, d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc pour se faire connaître, on envoyait des ouvrages à différentes sociétés savantes qui diffusaient la pensée et donc les connaissances dans différents types de pays. Et juste pour revenir alors sur ce que vous avez dit qu'effectivement 20 ans de maturation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment en même temps, un autre naturaliste qui s'appelle Alfred Wallace est arrivé aux mêmes conclusions que de Darwin, lui a envoyé une lettre lui présentant sa théorie de l'évolution, avec des mécanismes qui étaient quasiment similaires à ceux que voulait proposer Darwin, et c'est ce qui l'a poussé, c'est ce qui a poussé Darwin à publier, si ça trouve, surtout vu les réticences de l'époque dans l'Angleterre victorienne, il aurait peut-être encore plus décalé son ouvrage et attendu. Donc, il y a une notion importante qu'on trouve ici en science, c'est que finalement, on va dire que la société était mûre, était mature pour recevoir ce type de théorie et la populariser.
Et peut-être certains ont pu le dire que Darwin a vraiment effectivement été aidé par les travaux de Wallace. Sans lui, il n'aurait peut-être pas eu, non pas au bon moment, mais même pas eu la possibilité de sortir un ouvrage aussi brillant et aussi important pour sa génération. Cette question d'évolution, vous en parliez à peine il y a quelques secondes dans cette époque de l'Angleterre victorienne, a posé quelques problèmes sociétaux. Aujourd'hui toujours, au final, je crois qu'on n'est pas forcément toujours sorti de cette idée que l'évolution et cette théorie est bel et bien réelle.
Tout à fait. D'autant plus que, alors, en France, on a la chance, entre guillemets, que la théorie de l'évolution soit bien acceptée dans le milieu universitaire, dans le milieu scolaire et même au niveau politique. Cependant, de plus en plus, on observe une certaine tendance au créationnisme. C'est-à-dire qu'on réfute les théories même de l'évolution. En mettant en avant l'hypothèse selon laquelle, effectivement, c'est un dieu qui a créé les espèces de toutes pièces, etc. Et donc, c'est d'autant plus important de faire passer ce message-là au grand public et aux enfants en particulier pour permettre d'expliquer davantage sa théorie.
Nous continuerons tout à l'heure à voir ensemble la vitalité, l'actualité de cette théorie de Darwin sur le monde de la recherche actuelle. Restez avec nous, Romain Nattier.
Fiegliela do belle quando lo so fiugiaro un tratto una madina l'ha fatto sussinare. Lasciale dove ride su ricordo amaro, ascoltalo do cuore, sentilo sussurrare. Digerà come la boe stessa vita, con la sua ricchezza infinita e sua bellezza ti girerà.
tratta di giorni di grazia sidellina, di l'ore senza fine a correre camminare. Fieglia la dodera all'alba d'ogni mattina, ascolta lo suo canto, senti lo canti chia. Ti dicerà quanto prezioso è lo dolore, non lascia spegnere lo dolore, e tutte se cose assai la fa. Ti dicerà ciò consiste tutto l'impegno che ciolerà per impettare senza vanice, né di un vede né di un sa. Ti dicerà l'idolani taceliti sospiri per di senza paura ciò che lo verre ma fa.
C'est votre jour de science, les petits curieux.
Il a marqué les esprits en 1859 en offrant une nouvelle vision des hommes et de la nature en général. Charles Darwin est au cœur de ce rendez-vous où nous avons la chance d'accueillir depuis quelques minutes le docteur en sciences Romain Nattier.
Oui, puis la question d'un enfant qui nous est arrivée sur Internet, c'était, Romain Nattier, est-ce que Charles Darwin était vraiment un génie?
Alors justement, c'est intéressant parce que on ne peut pas dire que Charles Darwin a inventé la théorie de l'évolution. Donc en français, ce n'est pas un génie qui a tout inventé, mais il l'a crédibilisé en apportant un cadre théorique et surtout une explication rationnelle des différents types de mécanismes. Justement, on peut dire qu'en science, il y a une certaine importance de la variabilité et du hasard, tout comme dans la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que Charles Darwin s'inscrivait également dans un contexte scientifique de l'époque où ses idées-là étaient matures. J'ai parlé de son grand-père, Erasmus Darwin, j'ai parlé de Lamarck, on a fait également allusion à Alfred Wallace. Donc, il s'inscrivait dans son époque et il a réussi, de par sa formation universitaire, de par son expérience naturaliste, son retour en Angleterre, à populariser cette théorie, à la crédibiliser, à lui apporter un cadre théorique. Donc, il est toujours très difficile de parler de génie, notamment en science, où il s'agit quand même de disciplines où on travaille de manière collective avec des collègues, donc encore actuellement, bien sûr. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'était un génie. Par contre, que ce soit quelqu'un qui a vraiment révolutionné la biologie moderne, ça, on peut le dire.
Et est-ce que justement ces thèses évolutionnistes sont toujours d'actualité ou 150 ans après, elles ont pris quelques rides?
Elles sont toujours d'actualité et elles ont pris des rides. Alors, c'est-à-dire que la base est la même, on va dire, mais la théorie a beaucoup évolué depuis. Mais alors, oui. Sous pression de l'environnement, hein, comme les organismes, notamment depuis Darwin, ça fait quand même plus de 160 ans, il y a eu l'apport de la génétique, de la paléontologie, découverte de nombreux fossiles, de la biologie du développement, et d'autres types de théories qui ont permis de préciser la théorie de Darwin, notamment tout ce qui est, qu'on appelle la théorie neutraliste de l'évolution, selon laquelle, en fait, la plupart de l'évolution est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment d'impact sur la morphologie, etc. Donc, la théorie a beaucoup évolué depuis Darwin, mais la base reste la même, et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que même en science, tout évolue. Et donc, on ne peut pas se qualifier actuellement, on fait référence à la théorie darwinienne de l'évolution, mais on se place plutôt dans un cadre qu'on appelle du néo-darwinisme, c'est-à-dire la base de la théorie de Darwin, mais qui a été modifiée, amplifiée, améliorée à partir des connaissances actuelles.
On entend beaucoup parler d'épigénétique, hein, qui est un mot qui est apparu là, il y a quelques années et qui revient beaucoup dans les débats scientifiques. Est-ce que vous pouvez peut-être un tout petit peu nous l'expliquer, nous dire s'il a une influence sur la pensée de Darwin, mais aujourd'hui?
Juste pour préciser, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est quand on considère que tout n'est pas inscrit dans la séquence d'ADN de notre génome. Ça, c'est quelque chose d'important parce que jusque, on va dire, aux années 90 ou même 2000, on pensait que l'ensemble de notre ADN, de notre génome, permettait d'expliquer tout la morphologie, la physiologie, enfin, permettait quasiment d'expliquer tout le monde vivant. Or, on s'est rendu compte que les gènes, notamment l'activité des gènes, peut être modulée par l'environnement. Donc, encore une fois, influence de l'environnement. Et que l'environnement, sous diverses manières, ça rentre dans les détails, peut marquer les gènes et donc qu'ils soient transmis de génération en génération. Donc, l'épigénétique explique que tout n'est pas inscrit dans la séquence du génome. Alors, si je veux prendre un exemple, on peut prendre un exemple assez connu, celui des abeilles. Mmh. Les abeilles, donc, possèdent différents types de larves. Et une larve qui reçoit de la gelée royale se développe en reine. C'est-à-dire qu'elle possède une morphologie de reine, donc elle est beaucoup plus grosse et surtout, elle est capable de se reproduire. Alors qu'une autre larve, qui elle ne reçoit pas la gelée royale, mais une nourriture classique, devient une ouvrière stérile et qui est très différente de la reine. Donc là, c'est l'environnement, donc on peut dire que c'est de l'épigénétique, mais de l'environnement sous forme alimentaire, qui permet de moduler la morphologie, la physiologie et même l'évolution de la ruche, si c'est une larve qui va devenir reine ou bien si c'est une larve qui va devenir une ouvrière.
Est-ce que vous trouvez que la place, et est-ce qu'on sait scientifiquement si la place de l'homme, qui finalement est très récente dans l'histoire de l'évolution, quand on remonte à la première trace du vivant qui est proche de 2,7 milliards d'années, est-ce que la place de l'homme a changé le cours de l'évolution? Est-ce qu'on doit le prendre en compte dans l'évolution et au regard notamment de son impact sur la planète et sur les êtres vivants, végétaux ou animaux?
Alors on se rend compte effectivement que, alors surtout depuis la révolution industrielle, que certains scientifiques considèrent que nous sommes entrés dans une époque qu'on appelle l'Anthropocène. Alors, c'est une époque géologique qui est fortement influencée par l'homme, par son activité, par la modification de l'environnement de l'homme. Et tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la famille du boulot. C'est un exemple vraiment concret et observable de l'influence de l'homme, notamment la pollution dans l'Angleterre au 19e siècle, sur l'évolution de certaines espèces.
Alors, pour terminer peut-être, l'une de vos spécialités, c'est le classement phylogénétique du vivant. On classe les êtres vivants. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste? Parce que ça fait aussi partie de votre quotidien de scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Alors, en fait, justement, je réalise des classifications du vivant. C'est-à-dire que je regroupe les organismes sur la base de ce qu'ils possèdent en commun. Donc ça, c'est important, notamment les caractères qui sont propres à chaque groupe. Par exemple, actuellement, dans la classification phylogénétique, on ne reconnaît plus des grands groupes comme invertébrés. C'est qu'on dit souvent « Ah, ça, c'est un invertébré ». Sauf que les invertébrés, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas de vertèbres.
Et oui.
Alors que lorsqu'on fait de la classification, on classe selon ce que les organismes possèdent en commun. Et donc là, par exemple, les mammifères possèdent en commun de la production de lait, des poils, notamment. Mm-hmm. Et ça, c'est important parce que si on classe en fonction de ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont en commun, c'est hérité directement d'un ancêtre commun. Et donc là, on applique directement la théorie de l'évolution, notamment la théorie darwinienne de l'évolution, à la classification du vivant.
Romain Lattier, vous pensez qu'on parlera encore de Darwin dans plusieurs décennies?
Oui, alors effectivement, on parlera de Darwin. J'espère qu'on parlera également d'autres personnes un peu moins célèbres, mais qui ont également contribué différemment à la théorie de l'évolution, à sa popularité et à son acceptation en science et également dans le grand public. On va en parler parce qu'on a besoin quelque part d'icônes, de références comme ça, l'image du naturaliste anglais qui a révolutionné la biologie, qui a fait un long voyage au bord d'un bateau, qui a collecté de nombreuses données. Il y a quelque chose un peu de fascinant et de romantique là-dedans. Mais voilà, mon souhait également, c'est qu'on parle également des autres personnes, que ce soit Alfred Wallace, les personnes qui sont à l'origine de la théorie néo-darwinienne, etc., etc.
Romain, juste pour nous faire rêver, là, si vous faites un tour de tête autour de ce que vous avez dans votre bureau, il y a quoi? Il y a des cadres avec plein d'insectes partout, vous êtes au muséum, il y a des araignées qui grimpent quelque part. Faites-nous vivre un peu votre bureau de chercheur.
Je ne vais pas vous faire vivre. Devant moi, j'ai un ordinateur avec deux écrans parce que actuellement, on fait aussi beaucoup de choses sur ordinateur, même quand on fait en science.
Et oui.
Je collecte des espèces sur le terrain, je les mets dans les collections, je les étudie, mais après, il y a beaucoup de choses sur ordinateur, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les laboratoires également, notamment quand on travaille sur l'ADN. Mais autour de moi, j'ai des cadres avec des photos, alors beaucoup de photos de fleurs, bizarrement, et beaucoup de coccinelles. J'ai une grande phylogénie des insectes qui est posée derrière moi.
Bon.
Une classification également des différents insectes, notamment des coléoptères. et plusieurs livres et boîtes et une loupe binoculaire, bien sûr, qui me permet d'observer précisément l'anatomie des petites bêtes que j'étudie.
Eh bien, merci de nous avoir fait vivre votre environnement et surtout merci pour cette plongée dans l'univers de Darwin. Grâce à vous, aujourd'hui, on a eu un éclairage plutôt réussi.
On comprend, bien sûr, on comprend tout. Beaucoup mieux. Merci beaucoup, Romain Nathier. À bientôt.
Au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Le succès, cher Fabrice, de vos conférences sur le thème des plantes et des hommes vous fait faire de nombreux kilomètres à travers la Corse. Et ce rythme soutenu s'ajoute à votre travail de directeur du Parc Galet, à vos chroniques chaque week-end sur RCFM et à votre présence à mes côtés chaque dimanche. Oui, mais voilà, vous risquez d'accumuler de la fatigue et de vous endormir, un de ces quatre, en conduisant. Heureusement, voici une paire de lunettes, pas comme les autres, pour lutter contre la somnolence au volant. Alors, elles n'ont rien de spécial à première vue, mais sont équipées d'une petite caméra qui va détecter vos clignements de paupières plus nombreux, plus rapides, signe que vous êtes en train de vous endormir. Du coup, elles vont émettre un petit son pour vous alerter et votre téléphone va envoyer un message à ce qu'on appelle un assisteur qui tentera de vous garder éveillé en vous parlant dans les haut-parleurs de votre voiture.
D'accord.
Du style Fabrice, il est temps de vous garer. Voilà. Cette monture intelligente et connectée sera en vente dans quelques semaines et a beaucoup plu lors de sa présentation au Consumer Electronics Show qui s'est déroulée il y a 15 jours à Las Vegas. Mais ne vous méprenez pas sur cette innovation, elle arrive tout droit de Nice. Enfin, de Nice, comme vous voulez.
Oui, on l'a fait en anglais.
Tout comme un autre concept high-tech dont je voulais vous parler parce que ça va vous plaire. Vous êtes toujours dans votre voiture, vous avez soif et vous vous arrêtez devant une fontaine, mais vous ne savez pas si l'eau est potable. Vous allez remplir une bouteille en apparence en verre, vous allez la placer dans une boîte équipée de rayonnement UVA. La lumière va casser la molécule du chlore, si elle en possède, va stériliser tout ce qui est mauvais dans cette eau pour tout filtrer sans enlever pour autant les sels minéraux. Et en 20 minutes, puisque votre boîte est branchée sur votre allume-cigare, vous allez pouvoir vous désaltérer sans inquiétude, avec une eau purifiée, sans l'utilisation de chlore, et donc du coup pas le goût du chlore. C'est une super innovation, elle est française, et elle a beaucoup plu aux Américains lors de ce show.
Est-ce que ça marche avec l'eau de mer ?
Alors c'est une excellente réponse, je ne crois pas pour le moment, mais ça pourrait être là aussi révolutionnaire. Hein ?
Moi alors j'ai une question pour vous de mon côté, pour cette actu scientifique. Je suis quasiment certain d'avoir la réponse, je vous le dis tout de suite. Est-ce que lorsque vous prenez un bébé, par exemple le bébé d'une amie, dans vos bras, il pleure ?
Bon, c'est toujours comme ça.
Et non, je suis sûr que non. Je suis sûr qu'au départ, il vous fait des risettes, des sourires.
Oui,
et
au bout d'un moment, sa maman lui manque, je pense.
En fait, je vous donne une information très intime de mon côté. Quand on me met un bébé dans les bras, ce sont des larmes quasi assurées de son côté et quasi immédiates. En fait, jusque-là, je vivais plutôt ça assez bien, ma foi. Sauf qu'une étude très sérieuse vient de me vexer sérieusement en prouvant que si les bébés pleurent lorsqu'on les place dans les bras d'un inconnu, c'est tout simplement qu'ils le trouvent moche. Ou plus exactement, que le visage qu'ils ont soudain en face d'eux leur fait peur. Alors, effectivement, toujours selon la science, les bébés ont des standards de beauté et n'accordent leur confiance qu'aux gens correspondant à leurs critères. Le plus souvent, ceux qui ont un visage harmonieux, une peau lisse, avec des grands yeux, de beaux cheveux longs, ou les joues bien rondes. Ça vous correspond bien, en réalité. C'est pour ça que j'étais certain qu'ils ne pleuraient pas en votre compagnie. Leur cerveau associe spontanément ses traits à de la gentillesse dans les bras de ces gens-là. Comme vous, ils sont donc tout sourire. Du coup, évidemment, une tête ovale, pas un cheveu sur le caillou, un double menton, des rides naissantes, un regard de poisson tout juste frais. Comment voulez-vous qu'un bébé se sente à l'aise en ma présence ? Je comprends mieux que je n'ai pas droit à des risettes quotidiennes. Alors, heureusement, on sait que les critères esthétiques des enfants se modifient au fil du temps et qu'au bout de quelques mois, on peut avoir la chance de sortir de leur case moche et pas rassurant pour entrer dans celle de finalement sympa et plutôt marrant.
Mais elle était très bien cette chronique. Allez, vous restez avec nous. L'évolution de l'espèce, justement, toujours au cœur de cette émission scientifique, puisque Cécile Breton va nous rejoindre. Elle est la directrice en chef de la revue Espèce, un très beau trimestriel, d'ailleurs que l'on connaît sur les ondes RCFM, puisque de nombreux auditeurs ont eu la chance de le gagner, et qui se veut le reflet de la recherche du monde scientifique.
C'est votre jour de science ? Regard insulaire.
Bonjour Cécile Breton.
Bonjour.
Bonjour Cécile.
Eh bien, nous, on est ravis de vous accueillir parce que grâce à vous, on va pouvoir vulgariser toutes ces choses distillées grâce à Romain Nattier aujourd'hui, concrètement, grâce à une belle revue dont on vient de parler. À qui elle s'adresse, cette revue Espèce ?
Alors, je pense que... À l'origine, elle a été vraiment créée pour s'adresser à tout le monde, sachant qu'elle est quand même spécialisée dans un domaine qui sont les sciences de la vie et de la Terre. Donc, il faut que ce soit des gens quand même qui ont une petite, déjà une pas une petite connaissance d'ailleurs, parce que vraiment, ça peut être vraiment accessible dans le sens où il y a tous les outils dans la revue pour comprendre le fond. Mais sachant que ça peut s'adresser, alors curieusement, on a beaucoup d'enfants qui le lisent. Ça, c'est une curiosité parce que franchement, c'était pas fait à l'origine pour eux, des gamins de 12-13 ans qui plongent dedans. Ça s'adresse à des gens, à tout le monde en fait. On est toujours très surpris. Notre public, on le connaît pas vraiment bien puisqu'on n'est pas en direct avec eux, mais je suis toujours surprise de voir qu'il y a une grande variété de gens qui viennent d'horizons très différents. Alors évidemment, il y a beaucoup de profs de sciences de SVT qui la lisent pour se documenter. Mais il y a aussi des chercheurs qui sont spécialisés par exemple dans un domaine et qui vont s'intéresser, par exemple des géologues qui vont s'intéresser à la paléontologie ou bien à la botanique, etc. Donc il y a ce public qui est déjà très sensibilisé et puis normalement il y a aussi beaucoup de gens qui juste s'y intéressent comme ça et qui sont contents en fait de trouver une revue de vulgarisation scientifique qui ne balaye pas tous les champs de la connaissance scientifique. On a les maths, on a des choses trop différentes, la physique, etc. Qui sont un peu frustrés sur la grande vulgarisation scientifique et voilà, qui sont contents de retrouver vraiment leur fond d'intérêt.
Moi ça m'étonne pas du tout, en fait, Cécile, que vous ayez un public très très large, parce que d'abord le graphisme de votre revue est exceptionnellement clair, il est très ludique, il a des photos absolument magnifiques. Et puis, vous avez réussi surtout, vous le faisiez déjà avec Stantaria, on connaît bien ici sur l'île cette revue, le grand frère en fait, Espèce, est maintenant dans les kiosques au niveau national. Vous faisiez déjà ce pont très complexe entre la clarté et la précision scientifique du propos et la pédagogie adaptée à tous, y compris aux non-spécialistes. Ça, vous le faites encore dans Espèce. Alors justement, on était sur ce principe d'évolution et vous la traitez en permanence, l'évolution. Dans votre
Elle est omniprésente.
Revue. Est-ce que c'est compliqué justement de faire passer des messages sur ce domaine finalement qu'on croit connaître mais qui est très complexe ?
L'évolution, c'est vraiment... Alors je l'ai découvert petit à petit parce que moi aussi en fait j'avais des idées assez un peu préconçues sur les mécanismes qui mènent à l'évolution des espèces. Aujourd'hui on est curieusement dans une phase où l'évolution est dans le grand public souvent mise en cause parce qu'en fait on la comprend assez peu. Pourquoi on la comprend pas ? Parce que c'est très compliqué. C'est surtout très contre-intuitif, c'est-à-dire que il faut comprendre que les organismes vont évoluer dans le temps sur des longueurs de temps qui sont incommensurables et qu'on peut pas se représenter. Les arguments souvent des gens qui sont contre l'évolution, ce qui est curieux parce que c'est quand même une théorie qui a plus de 100 ans et qui a été validée, revalidée par des centaines de scientifiques. Tout le monde travaille avec l'évolution. On ne peut pas en parler parce que tout s'explique par l'évolution pratiquement. Évidemment, il y a encore des zones d'ombre, hein, etc. Donc les gens ont l'impression que, par exemple, le produit final, alors vous avez, par exemple, un des arguments les plus des anti-évolutionnistes, c'est souvent, par exemple, l'œil. L'œil, c'est tellement bien fait, on n'arrive pas à comprendre que comment autant de précision puisse être le fruit du hasard. Cette notion de hasard, c'est le deuxième truc qui en fait choque dans notre esprit parce que on a l'habitude d'avoir des machines qui sont conçues. Un œil a dû être conçu forcément par quelqu'un, mais en fait non. C'est-à-dire que ce mécanisme de variation génétique de variation puis de sélection, c'est-à-dire que la nature elle conserve que ce qui marche. Donc finalement, petit à petit, dans la longueur du temps, on finit par avoir des choses qui sont extrêmement élaborées et qu'on imagine conçues par quelqu'un, quoi.
Elle sélectionne, en fait.
Oui, c'est ça. Alors la sélection, elle a aussi... Alors ça, c'est une autre idée reçue, c'est que qu'il y ait d'ailleurs au sous-titre de la section naturelle de l'origine des espèces de Darwin, c'est-à-dire un sous-titre qui est « Struggle for life ». Donc les gens imaginent que c'est une idée aussi qui ne plaît pas du tout, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est le plus fort qui survit. Et ça, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que il y a certains cas, c'est effectivement celui le prédateur ou celui qui est le mieux adapté à son environnement qui va survivre le mieux. Mais il y a la coopération, la société sont aussi des façons de lutter pour la vie. Donc l'empathie fait partie des critères de sélection. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui déplaît, voilà, parce qu'on imagine ça, quoi.
Pour revenir à votre revue, votre trimestrielle, Espèce, dont vous assurez la direction, j'imagine.
Je suis rédactrice en chef.
Vous avez des gens qui participent absolument brillants, hein, les plus grands scientifiques dans leur domaine, notamment des sciences naturelles, parce que c'est celui que vous traitez, principalement, sont à vos côtés. On ne va pas citer la liste, y compris la liste du conseil scientifique. Est-ce que c'est compliqué quand on est en Corse, quand on crée un magazine en Corse, mais qui a une diffusion nationale, d'avoir à ses côtés des gens aussi brillants qui vous suivent, notamment à l'heure d'Internet, avec, malgré tout, un magazine en kiosque?
Alors, je veux dire, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que la plupart, notamment Gilles Boeuf, hein, Yves Coppens, parmi les grands du conseil scientifique, sont des gens que j'ai rencontrés en Corse, hein, parce que c'est plus facile.
ça tombe bien.
Des fois, justement, vous faites venir des gens merveilleux qu'on peut rencontrer beaucoup plus facilement, finalement, en Corse qu'à Paris. Bon, après, j'avais déjà un petit réseau, comme je viens de l'archéologie, et donc j'avais des rapports avec les gens du muséum, donc j'avais déjà un petit réseau de scientifiques qui ont suivi le projet. Et puis en fait c'est assez facile de les convaincre parce que il y a pas dans dans le paysage médiatique de revues qui leur permettent de publier des sujets qui sont pas forcément très sexy comme on dit dans la presse, c'est-à-dire des trucs qui se vendent pas, qui font ni peur, qui sont ni mignons ou intéressants ou qui ne concernent pas directement. Par exemple, voilà, là, dans le numéro on a parlé de bestioles bizarres comme l'oryctérope. C'est des animaux qui n'ont pas qui sont loin, qui sont juste intéressants, qui appellent juste à la pure curiosité des gens. Donc c'est pas, on va pas faire peur avec l'oryctérope, il est trop sympa, il a pas du tout. Et donc ces sujets-là, ils sont difficiles à traiter dans la presse vraiment qui est vraiment soumise à une pression économique difficile où il faut vendre du papier. Nous on est sous forme associative, on a des gens qui travaillent bénévolement, tous les auteurs sont bénévoles, etc. Il y a une espèce d'émulation qui s'est faite parce qu'il y avait un manque des deux côtés, quoi.
Moi, je veux vraiment le dire aux auditeurs, Evelyne est d'accord avec moi, on en a parlé avant de vous recevoir dans l'émission, vraiment dire aux auditeurs d'aller regarder, hein, sur notamment, s'ils ne sont pas dans un kiosque à l'heure où ils nous écoutent, sur Internet, notamment le site Espèce, avec un S, hein, qui est le site de votre revue. C'est absolument fabuleux pour les enfants, pour les grands, pour les néophytes, pour les spécialistes, pour les amoureux de nature d'une manière générale. Et puis quand on lit les commentaires des personnes qui ont eu votre magazine sous la main et qui regrettent d'ailleurs de ne parfois pas avoir les autres numéros, donc ils vous les commandent, hein, quand ils le découvrent récemment. Ces commentaires sont vraiment élogieux. C'est assez rare d'ailleurs, hein. Ils disent d'ailleurs que pour certains que c'est une des plus belles revues en kiosque actuellement en France. Et ça vient de Corse et c'est avec Cécile Breton.
Nos lecteurs sont formidables.
De la rigueur, de l'échange, de la qualité.
Vous savez que la presse perd, et en chute libre, donc on est perd 10% de vente tous les ans, mais nous on est de la presse de niche, on a une petite progression qui est correcte, qui nous permet de survivre, hein, effectivement, sur l'or, donc abonnez-vous. Mais voilà, c'est plutôt rassurant qu'il y a quand même toujours des gens qui veulent du papier, quoi. Parce qu'on a une version numérique aussi, mais qui marche beaucoup moins bien.
Mais c'est vrai que le numérique n'a jamais le même charme, et surtout quand on connaît la qualité des tirages. Merci beaucoup, Cécile Breton.
Merci à vous deux.
Merci en tout cas Fabrice, merci à Joël Fondatch qui a réalisé cette émission. Merci à Cécile Breton et à Romain Nattier pour ce beau voyage. Et puis nous, ben on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Fabrice, avec un grand plaisir, pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est votre jour de science, et merci aussi évidemment à vous, Evelyne Fontane.